Crésus, croyant que ce siège traînerait en longueur, fit partir de la citadelle de nouveaux ambassadeurs vers ses alliés. Les premiers n'avaient fixé le rendez-vous à Sardes qu'au 5e mois, mais ce prince étant assiégé, la commission de ceux-ci était de demander le plus prompt secours. Il envoya vers différentes villes alliées et particulièrement à Lacédémone. Dans ce même temps, il était aussi survenu une querelle entre les Spartiates et les Argiens au sujet du lieu nommé Tyrée. Ce canton faisait partie de l'Argolide, mais les Lacédémoniens l'en avaient retranché et se l'étaient approprié. Tout le pays vers l'Occident jusqu'à Malais appartenait aussi aux Argiens, tant ce qui est en terre ferme que l'île de Cythère et les autres îles. Les Argiens étant venus au secours du territoire qu'on leur avait enlevé, on convint dans un pourparler qu'on ferait combattre 300 hommes de chaque côté, que ce territoire demeurerait au vainqueur, que les deux armées ne seraient pas présentes au combat, mais se retireraient chacune dans son pays de peur que le parti qui aurait le dessous ne fût secouru par les siens. Les deux armées se retirèrent après cet accord, et il ne resta que les guerriers choisis de part et d'autre. Ils combattirent des deux côtés avec tant d'égalité que de 600 hommes il n'en resta que 3. Alcénor et Chromius, du côté des Argiens, et Othryade, de celui des Lacédémoniens. Et encore fallut-il que la nuit les séparât. Les deux Argiens coururent à Argos annoncer leur victoire. Pendant ce temps-là, Othryade, guerrier des Lacédémoniens, dépouilla les Argiens tués dans le combat, porta leurs armes à son camp et se tint dans son poste. Le lendemain, les deux armées arrivent. Instruites de l'événement, elles s'attribuent quelque temps la victoire. Les Argiens, parce qu'ils avaient l'avantage du nombre, les Lacédémoniens, parce que les combattants d'Argos avaient pris la fuite tandis que leur guerrier était resté dans son poste et qu'il avait dépouillé leurs morts. Enfin, la dispute s'étant échauffée, on en vint aux mains. Et après une perte considérable de part et d'autre, les Lacédémoniens furent vainqueurs. Depuis ce temps-là, les Argiens, qui jusqu'alors avaient été obligés de porter leurs cheveux, se rasèrent la tête. Et par une loi accompagnée d'imprécations contre les infracteurs, ils défendirent aux hommes de laisser croître leurs cheveux et aux femmes de porter des ornements d'or avant qu'on eût recouvré Tyrée. Les Lacédémoniens, qui auparavant avaient des cheveux courts, s'imposèrent la loi contraire, celle de les porter fort longs. Quant à Othryade, restés seuls les 300 Lacédémoniens, on dit que, honteux de retourner à Sparte après la perte de ses compagnons, il se tua sur le champ de bataille dans les territoires de Tyrée. Telle était la situation des affaires à Sparte, lorsqu'il arriva de Sardes un héros pour prier les Spartiates de donner du secours à Crésus, qui était assiégé dans sa capitale. Sur cette demande, on ne balança pas à lui en envoyer. Déjà, les troupes étaient prêtes et les vaisseaux équipés. Un autre courrier apporta la nouvelle que la ville des Lydiens était prise et que Crésus avait été fait prisonnier. Les Spartiates en furent très affligés et se tinrent en repos. Voici la manière dont la ville de Sardes fut prise. Le 14e jour du siège, Cyrus fit publier par des cavaliers envoyés par tout le camp qu'il donnerait une récompense à celui qui monterait le premier sur la muraille. Animé par ses promesses, l'armée lit les tentatives, mais sans succès. On cessa les attaques. Le seul Héroéades, marde de nation, entreprit de monter à un certain endroit de la citadelle où il n'y avait point de sentinelles. On ne craignait pas que la fuite fût jamais prise de ce côté. Escarpée, inexpugnable, cette partie de la citadelle était la seule par où Mélès, autrefois roi de Sardes, n'avait point fait porter le lion qu'il avait eu d'une concubine. Les devins de Thelmis lui avaient prédit que Sardes serait imprenable si l'on portait le lion autour des murailles. Sur cette prédiction, Mélès l'avait fait porter partout où l'on pouvait attaquer et forcer la citadelle. Mais il avait négligé le côté qui regarde le mont Molus comme imprenable et inaccessible. Héroéades avait aperçu la veille un Lydien descendre de la citadelle par cet endroit pour ramasser son casque qui était roulé du haut en bas et l'avait vu remonter ensuite par le même chemin. Cette observation le frappa et lui fit faire des réflexions. Il y monta lui-même, et d'autres Perses après lui qui furent suivis d'une grande multitude. Ainsi fut prise Sardes, et la ville entière livrée au pillage. Quant à Crésus, voici quel fut son sort. Il avait un fils dont j'ai déjà fait mention. Ce fils avait toutes sortes de bonnes qualités, mais il était muet. Dans le temps de sa prospérité, Crésus avait mis tout en usage pour le guérir, et entre autres moyens, il avait eu recours à l'oracle de Delphes. La pitié avait répondu: Lydien, roi de plusieurs peuples, insensé Crésus, ne souhaite pas d'entendre ton palais la voix tant désirée de ton fils. Il te serait plus avantageux de ne jamais l'entendre. Il commencera de parler le jour où commenceront tes malheurs. » Après la prise de la ville, un Perse allait tuer Crésus sans le connaître. Ce prince le voyait fondre sur lui. Mais accablé du poids de ses malheurs, il négligeait de l'éviter et peu lui importait de périr sous ses coups. Le jeune prince muet, à la vue du Perse qui se jetait sur son père, saisi d'effroi, fit un effort qui lui rendit la voix. « Soldat, s'écrie-t-il, ne tue pas Crésus !» Tels furent ses premiers mots, et il conserva la faculté de parler le reste de sa vie. À la prise de Sardes, les Perses ajoutèrent celle de Crésus, qui tomba vif entre leurs mains. Il avait régné 14 ans, soutenu un siège d'autant de jours, et, conformément à l'oracle, détruit son grand empire. Les Perses qui l'avaient fait prisonnier le menèrent à Cyrus. Celui-ci le fit monter, chargé de fer et entouré de 14 jeunes Lydiens, sur un grand bûcher dressé exprès, soit pour sacrifier à quelque dieu ses prémices de la victoire, soit pour accomplir un vœu, soit enfin pour éprouver si Crésus, dont on vantait la piété, serait garanti des flammes par quelque divinité. Ce fut ainsi, dit-on, qu'il le traita. Crésus, sur le bûcher, malgré son accablement et l'excès de sa douleur, se rappela ces paroles de Solon que nul homme ne peut se dire heureux tant qu'il respire encore. Et il lui vint à l'esprit que ce n'était pas sans la permission des dieux que ce sage les avait proférées. On assure qu'à cette pensée, revenu à lui-même, il sortit par un profond soupir du long silence qu'il avait gardé et s'écria par 3 fois « Solon !» que Cyrus, frappé de ce nom, lui fit demander par ses interprètes quel était celui qu'il invoquait. Il s'approche et l'interroge. Crésus d'abord ne répondit pas. Forcé de parler, il dit « C'est un homme dont je préférerais l'entretien aux richesses de tous les rois. » Ce discours leur paraissant obscur, ils l'interrogèrent de nouveau. Vaincu par l'opportunité de leur prière, il répondit qu'autrefois Solon d'Athènes était venu à sa cour. Qu'ayant contemplé toutes ses richesses, il n'en avait fait aucun cas. Que tout ce qu'il lui avait dit se trouvait confirmé par l'événement, et que les avertissements de ce philosophe ne le regardaient pas plus, lui en particulier, que tous les hommes en général, et principalement ceux qui se croyaient heureux. Ainsi parla Crésus. Le feu était déjà allumé, et le bûcher s'enflammait par les extrémités. Cyrus, apprenant de ses interprètes la réponse de ce prince, se repent. Il songe qu'il est homme, et que cependant il fait brûler un homme qui n'avait pas été moins heureux que lui. D'ailleurs, il redoute la vengeance des dieux, et, réfléchissant sur l'instabilité des choses humaines, il ordonne d'éteindre promptement le bûcher et d'en faire descendre Crésus, ainsi que ses compagnons d'infortune. Mais les plus grands efforts ne purent surmonter la violence des flammes. Alors Crésus, comme le disent les Lydiens, instruit du changement de Cyrus à la vue de cette foule empressée à éteindre le feu sans pouvoir y réussir, implore à grands cris Apollon. Le conjure, si ses offrandes lui ont été agréables, de le secourir, de le sauver d'un péril si pressant. Ses prières étaient accompagnées de larmes. Soudain, au milieu d'un ciel pur et serein, des nuages se rassemblent. Un orage crève, une pluie abondante éteint le bûcher. Ce prodige apprit à Cyrus combien Crésus était cher aux dieux par sa vertu. Il le fait descendre du bûcher et lui dit « Ô Crésus, quel homme vous a conseillé d'entrer sur mes terres avec une armée et de vous décarrer mon ennemi au lieu d'être mon ami? Votre heureux destin et mon infortune m'ont jeté, Seigneur, dans cette malheureuse entreprise. Le dieu des Grecs en est la cause. Lui seul m'a persuadé de vous attaquer. Et quel est l'homme assez insensé pour préférer la guerre à la paix? Dans la paix, les enfants ferment les yeux à leurs pères. Dans la guerre, les pères enterrent leurs enfants. » Mais enfin, il a plutôt Dieu que les choses se passassent de la sorte. Après ce discours, Cyrus lui fit ôter ses fers et asseoir près de lui. Il le traita avec beaucoup d'égards et ne put, lui et toute sa cour, l'envisager sans étonnement. Crésus, livré à ses pensées, gardait le silence. Bientôt, en retournant la tête, il aperçoit les Perses empressés au pillage de Sardes. « Seigneur, s'adressant à Cyrus, dois-je vous dire ce que je pense ?» Ou mon état actuel me condamne-t-il à me taire ? » Cyrus lui ordonne de parler avec assurance. « Eh bien, lui demande Crésus, cette multitude, que fait-elle avec tant d'ardeur? Elle pille votre capitale, elle enlève vos richesses. Non, Seigneur, ce n'est point ma ville, ce n'est pas mes trésors qu'on pille. Rien de tout cela ne m'appartient plus. C'est votre bétail qu'on emmène, ce sont vos richesses qu'on emporte. Cyrus, frappé de cette réponse, écarte tout le monde et demande à Crésus le parti qu'il faut prendre dans cette conjoncture. « Seigneur, répondit-il, puisque les dieux m'ont rendu votre esclave, je me crois obligé de vous avertir de ce qui peut vous être le plus avantageux lorsque je l'aperçois mieux que vous. Les Perses, naturellement insolents, sont pauvres. Si vous souffrez qu'ils pillent cette ville et qu'ils en retiennent le butin, il est probable, et vous devez vous y attendre, que celui qui en aura fait le plus grand n'en sera que plus disposé à la révolte. Si donc vous goûtez mes conseils, ordonnez à quelques-uns de vos gardes de se tenir aux portes de la ville et d'ôter le butin à vos troupes, parce qu'il faut, leur diront-ils, en consacrer la 10e partie à Jupiter. Par ce moyen, vous ne vous attirerez point la haine de vos soldats, quoique vous le leur enleviez de force. Et lorsqu'ils viendront à connaître que vous ne leur demandez rien que de juste, ils obéiront volontiers. » Ce discours fit à Cyrus le plus grand plaisir. Il trouva le conseil très sage. Il en combla l'auteur de louanges. Et après avoir donné à ses gardes les ordres qu'il lui avait suggérés Crésus, il s'adresse à lui. « Crésus, dit-il, puisque vos discours et vos actions me prouvent que vous êtes disposé à vous conduire en roi sage, demandez-moi ce qu'il vous plaira, vous l'obtiendrez sur le champ. »« Seigneur, répondit Crésus, la plus grande faveur serait de me permettre d'envoyer au dieu des Grecs, celui de tous les dieux que j'ai les plus honorés, les fers que voici, avec ordre de lui demander s'il lui est permis de tromper ceux qui ont bien mérité de lui. » Le roi l'interroge pour savoir quel sujet il avait de s'en plaindre et quel était le motif de sa demande. Crésus répéta les projets qu'il avait eus et il entretint les réponses des oracles, de ses offrandes surtout, et des prédictions qu'il avait animées à la guerre contre les Perses. Il finit en lui demandant de nouveau la permission d'envoyer faire au dieu des reproches. « Non seulement cette permission, dit en riant Cyrus, mais ce que vous souhaiterez désormais, je vous l'accorde. » À ces mots, Crésus envoie des Lydiens à Delphes avec ordre de placer ses fers sur le seuil du temple, de demander au dieu s'il ne rougissait pas d'avoir par ses oracles excité Crésus à la guerre contre les Perses, dans l'espoir de ruiner l'empire de Cyrus. De lui montrer ses chaînes, seule prémisse qu'il put lui offrir de cette expédition, et de lui demander si les dieux des Grecs étaient dans l'usage d'être ingrats. Les Lydiens ayant exécuté à leur arrivée à Delphes les ordres de Crésus, on assure que la pitié leur fit cette réponse. Il est impossible, même à un dieu, d'éviter le sort marqué par les destins. Crésus est puni du crime de son 5e ancêtre, qui, simple garde d'un roi de la race des Héraclides, se prêta aux instigations d'une femme artificieuse, tua son maître et s'empara de la couronne à laquelle il n'avait aucun droit. Apollon a mis tout en usage pour détourner de Crésus le malheur de Sardes, et ne le faire tomber que sur ses enfants. Mais il n'y a pas été possible de fléchir les parques. Tout ce qu'elles ont accordé à ses prières, il en a gratifié ce prince. Il a reculé de 3 ans la prise de Sardes. Que Crésus sache donc qu'il a été fait prisonnier 3 ans plus tard qu'il était porté par les destins. En second lieu, il l'a secouru lorsqu'il allait devenir la proie des flammes. Quant à l'oracle rendu, Crésus a tort de se plaindre. Apollon lui avait prédit qu'en faisant la guerre aux Perses, il détruirait un grand empire. S'il eût voulu prendre sur cette réponse un parti salutaire, il aurait dû envoyer demander aux dieux s'il entendait l'empire des Lydiens ou celui de Cyrus. N'ayant ni saisi le sens de l'oracle, ni fait interroger de nouveau le dieu, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Il n'a pas non plus, en dernier lieu, compris la réponse d'Apollon relativement au mulet. Cyrus était ce mulet, les auteurs de ses jours étant de 2 nations différentes. Son père était d'une origine moins illustre que sa mère. Celle-ci était Mède et fille d'Astyage, roi des Mèdes. L'autre, Perse et sujet de la Médie. Et, quoique inférieur en tout, il avait cependant épousé sa souveraine. Les Lydiens s'en retournèrent à Sardes avec cette réponse de la pitié et la communiquèrent à Crésus. Alors, il reconnut que c'était sa faute et non celle du dieu. Quant à l'empire de Crésus et au premier asservissement de Lyonie, les choses sont de la sorte. Les offrandes dont j'ai parlé ne sont pas les seules que Crésus fit aux dieux. On en voit encore plusieurs autres en Grèce. Il fit présent à Thèbes, en Béotie, d'un trépied d'or qu'il consacra à Apollon isménien. À Éphèse, des génisses d'or et de la plupart des colonnes du temple. Il envoya à celui de Minerve, Pronaïa, à Delphes, un grand bouclier d'or. Ces dons subsistaient encore de mon temps. Ils sont les perdus plusieurs autres. Quant à ceux qu'il donna aux branchites dans le pays des Milésiens, ils étaient, autant que j'ai pu le savoir, semblables à ceux qu'il fit à Delphes et de même poids. Les présents qu'il envoya à Delphes et au temple d'Amphiaraüs venaient de son propre bien. C'étaient les prémices de son patrimoine. Les autres, au contraire, provenaient des biens d'un ennemi qui avait formé un parti contre lui avant son avènement à la couronne, et qui avait pris avec chaleur les intérêts de Pantaléon, qu'il voulait placer sur le trône de Lydie. Pantaléon était fils d'Aliate et frère de Crésus, mais d'une autre mère, car Crésus était né d'une Carienne et Pantaléon d'une Ionienne. Crésus ne se vit pas plus tôt en possession de la couronne que son père lui avait donnée qu'il fit périr cruellement celui qui avait formé un parti contre lui. Quant aux biens de ce conspirateur, qu'il avait destiné auparavant à être offert aux dieux, il les envoya alors, comme nous l'avons dit, au temple que nous venons de nommer. Mais en voilà assez sur les offrandes de Crésus.